Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Magro et je suis journaliste indépendant. Cette fois encore, Bérénice Billiez m'a laissé le micro pour animer la dernière émission du cycle que nous consacrons au rôle social des musées. Pour conclure ces quatre épisodes, je vous propose d'aborder l'héritage colonial et la décolonisation des musées. En 2020, le British Museum a mis en ligne un parcours de visite, le Collecting an Empire Trail, qui entend présenter l'influence de la colonisation sur la constitution des collections du musée. Il est présenté ainsi. Entre l'an 1500 et le milieu du XXe siècle, plusieurs pays européens ont établi des empires coloniaux, et l'Empire britannique était le plus grand. Le British Museum a été fondé en 1753. Son histoire et ses collections ont été façonnées par cet empire et par l'exploitation des personnes et des ressources. À l'automne 2021, je suis allé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Dès l'accueil, on trouve un dépliant proposant un parcours de visite intitulé Rijksmuseum and Slavery, c'est-à-dire le Rex et l'esclavage. Le texte d'introduction indique: les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles représentent une période critique de notre histoire, au cours desquelles les Pays-Bas ont assumé une position dominante sur la scène internationale. Ce pouvoir colonial est inextricablement lié à un système dans lequel l'esclavage relevait d'une pratique étatique. De fait, depuis le XVIIIe siècle, le développement économique de l'Europe, d'abord marchand puis industriel, a accompagné le développement des musées. L'histoire de leurs collections est intimement liée aux situations dans lesquelles les objets ont été acquis ou produits, qu'il ait été par la force ou par le commerce, par la ruse ou en bonne intelligence, et en tout cas dans une relation asymétrique unissant l'Europe et les continents qu'elle a colonisés. Or, en France, beaucoup de musées peinent encore à aborder ces sujets. Les musées d'art, notamment, rechignent à reconnaître le rôle joué par les conditions matérielles dans la constitution de leurs collections. On n'a pas encore vu de textes comme ceux que j'évoquais à l'instant au Louvre, à Versailles ou à Orsay. Et pourtant, leurs collections aussi sont liées aux conquêtes coloniales, au commerce triangulaire ou aux imaginaires que l'Europe a projetés sur l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et les Amériques. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Mélissa Andrianassolo, productrice du podcast La couleur de l'art et cofondatrice du studio La Clameur Podcast Social Club. Katia Koukoka, conservatrice du patrimoine et directrice adjointe du musée d'Aquitaine à Bordeaux. Et enfin Pierre Noual, juriste, historien de l'art et auteur de Restitution, une histoire culturelle et politique parue en 2021. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Pour débuter nos échanges, j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'héritage colonial. Mélissa, dans le cadre de ton podcast, tu as consacré un cycle de quatre épisodes au musée décolonial. Alors j'aimerais te poser un peu la question, de quoi parle-t-on quand on parle d'héritage colonial dans les musées?
Alors, effectivement, j'ai consacré quatre épisodes du sujet. Je pense que c'était pas trop. Ils font tous à peu près entre 45 minutes et une heure. Quand on parle d'héritage colonial dans les musées, bah, c'est d'abord, je pense, la question qui anime un peu tout le monde depuis quelques années, c'est la question des restitutions, donc de ce qui est à l'intérieur des collections des musées. Mais pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus large, puisque en fait, donc dans chacun des épisodes, j'ai essayé d'avoir un peu un panel de personnes différentes, pas que des professionnels de musée. Il y a des artistes, des militants, des professionnels de musée aussi, et des gens qui travaillent à l'intérieur de ces institutions. Et en fait, c'est à la fois pour moi, il y a trois, on va dire, il y a trois grands axes. Il y a les collections, le discours aussi qui est porté sur ces collections. Le fait de réfléchir aussi, même à l'intérieur de nos mouvements occidentaux, ce qui s'est passé aussi, par exemple, dans le cadre, je pense notamment, de certains mouvements occidentaux, comme le dadaïsme, le renouvellement des formes, ou l'héritage de Picasso, etc. Comment est-ce que certaines influences ont pu être prises chez des peuples africains? Il y a la question des publics aussi, comment est-ce que certains publics sont accueillis à l'intérieur des musées, qu'est-ce qui leur parle et qu'est-ce qui ne leur parle pas, et pourquoi certains publics sont aussi exclus. Et à la question des professionnels, comment est-ce qu'ils se saisissent de la question. Voilà, un petit peu le panel global de ce que je peux dire sur la question. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou si les autres invités veulent ajouter quelque chose.
Katia, peut-être tu veux compléter sur l'héritage colonial?
Oui, j'aurais dit sensiblement la même chose que Mélissa, avec pour moi une grande attention portée au discours. Discours porté sur ces collections par le passé, discours porté sur ces collections aujourd'hui, et discours qu'on aimerait voir porté sur ces collections demain et passer justement d'un récit solitaire et dominant à des récits équitables. Et partagés, même s'ils ne sont pas tous convergents.
Ce passage à des récits, comme tu l'indiques, ça me fait penser à toute la question de la modification de la définition des musées, qui est en discussion en ce moment à l'ICOM, sur la question de la polyphonie, justement. Peut-être que tu peux nous en dire plus un peu sur cette idée?
Oui, ben, polyphonie, inclusion, partage des récits, partage des collections. Enfin, je trouve que ce sont des mots qui importent, hein, et qu'on doit vraiment pouvoir habiter, hein, et pas seulement justement dans un discours, sorte de novlangue, qui voudrait finalement dans les faits pas dire grand-chose. Je crois que c'est un peu toute la difficulté, tout le défi des musées aujourd'hui, c'est comment passer du discours aussi aux actes. On ne sait pas toujours bien s'y prendre. Je pense qu'on ne sait pas s'y prendre, en fait. En tout cas, moi, la première, j'ai un peu l'impression de réapprendre complètement mon métier depuis quelque temps. C'est assez passionnant, mais cette définition, elle a fait polémique, elle fait encore polémique. Il y a des tentatives de médiation, des scissions possibles. Moi, j'avoue qu'elle me séduit beaucoup, et parce qu'elle vient déplacer la focale. Hein, qu'est-ce qui fait le musée? Certes, des collections, mais je pense avant tout, aujourd'hui, avant tout, des discours, et des gens qui entendent et réagissent à ces discours. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'envisage un musée aujourd'hui, vraiment inclus dans notre société et dans les enjeux de la société aujourd'hui. Ouais.
Pour continuer d'un peu explorer un peu les clés de compréhension, un peu pour poser le débat, je vais revenir un peu en arrière. Katia, en juin 2020, après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, le musée d'Aquitaine a été le seul musée français à prendre un peu position sur les réactions qui étaient faites autour de Black Lives Matter. Il y a assez peu de réactions. En tout cas, on a vu peu. Surtout, en fait, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que le musée a été le seul à tweeter un message qui disait: Nous devons poursuivre le travail d'éducation et de transmission de l'histoire des traites et de l'esclavage, à Bordeaux en particulier. Continuons collectivement à décoloniser nos musées.
Oui, alors on n'a pas été les seuls, et je crois que les musées de société dans leur ensemble ont assez vite pris position, et pris position collectivement grâce à la Fédération des écomusées et musées de société, et impulsée par sa présidente Céline Chanas, qui dirige le musée de Bretagne. Le musée de Bretagne aussi a tout de suite réagi. Je crois que ce tout de suite, en fait, il faut le relativiser, hein, on a pris le temps d'en parler, d'en discuter vraiment au sein du musée, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise, pourquoi cette fois-là plutôt que d'autres fois? Parce que des violences à l'égard de personnes racisées, on en connaît plein, hein, et pas seulement aux États-Unis, hein, aussi en France. Donc pourquoi là, il fallait qu'on réagisse, hein. Et bon, on a fait le choix de le faire, et j'en suis très heureuse. Après, c'était aussi une manière de dire que voilà, pour nous, il y a vraiment un changement de paradigme ces dernières années. Je crois qu'on prend conscience qu'on a à progresser. Dans ce domaine particulièrement, qu'on n'a pas toujours été très bon, très attentif, très conscient, hein, des enjeux, mais que là, maintenant, on se doit de progresser, d'apprendre encore une fois, à partager la parole. Et chez nous particulièrement, évidemment, à Bordeaux, ça a vraiment beaucoup de sens, puisqu'on est un ancien port colonial, une ville qui s'est bâtie sur des fortunes construite sur la traite et l'esclavage.
Alors, on va revenir sur les actions qui sont posées par le musée d'Aquitaine et plus largement sur les musées de société sur la façade atlantique dans un second temps. Si on revient un peu toujours pour poser un peu les clés de compréhension, peut-être Pierre, tu peux nous expliquer un peu dans l'introduction de ton ouvrage, tu parles du discours de Ouagadougou qui a été prononcé par Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce discours-là? Qu'est-ce qu'il acte et quel est son rôle un peu finalement dans notre sujet?
Bien, le discours du président de la République à l'époque a été un discours qui était extrêmement novateur, puisque jusqu'à présent, la plupart des présidents de la République entendaient les demandes qui pouvaient émaner de retour de biens culturels dans des territoires autres que le territoire français, mais opposaient toujours une fin de non-recevoir au regard de questions juridiques. Et en 2017, par ce discours, Emmanuel Macron a totalement renversé la tendance en expliquant que il fallait trouver le moyen pour pouvoir restituer, rendre tous ces biens en dépit d'arguments juridiques, puisque ce sont toujours les arguments juridiques qui sont opposés à ceux qui ne veulent pas rendre les biens culturels. Et là, c'est le contre-pied qui a été pris. Le problème, c'est que ce discours a eu un impact très important, ce qui a conduit au rapport Sarre-Savoie, dont on aura certainement l'occasion de reparler. Mais malheureusement, la matérialisation concrète, aujourd'hui, se fait toujours encore attendre, parce que malgré tout, le droit reste toujours présent. Et malgré les bonnes volontés qu'il peut y avoir de politiques, d'institutions culturelles françaises, mais aussi étrangères, ben, se retrouvent toujours en butte face au droit.
Extrait du rapport Sarre-Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain, publié en novembre 2018. Parler de restitution en 2018, c'est donc rouvrir à la fois le ventre de la machine coloniale et le dossier de la mémoire doublement effacée des Européens et des Africains d'aujourd'hui, les uns ignorant pour la plupart comment se sont constitués leurs prestigieux musées, les autres peinant à retrouver le fil d'une mémoire interrompue.
Alors, ce rapport, il a longuement été discuté. D'un côté du spectre, on a reproché, enfin, sa pertinence scientifique, pardon, a été remise en question et son positionnement idéologique ont parfois été contestés. De l'autre, son ambition politique et son approche franche et directe ont été saluées. Là, on est 4 ans après, hein, ce rapport. J'aimerais savoir quel est un peu, pour chacun et chacune d'entre vous, quelles sont ses retombées? Quel est le regard avec le retour de ces 4 ans?
Alors, pour continuer, ben c'est dans ce que je suis en train de dire, c'est que justement, il y a eu un véritable électrochoc avec ce rapport qui a soulevé de très nombreuses controverses, parfois peu justifiées, tant d'un point de vue politique, juridique, qu'historique ou éthique dans certains sens. On se souviendra toujours des propos de l'ancien président du musée du Quai Branly, qui trouvait un côté très condescendant à ce rapport et une frustration qu'on avait pu voir. Et 4 ans après, ben, hormis effectivement quelques restitutions qui ont pu avoir lieu à travers des projets, surtout un projet de loi, on se rend compte que la machine est quelque peu enrayée et qu'au final, ben, ce mouvement qui avait pris une ampleur importante en peu de mois semble s'être quelque peu essoufflé. Quelque peu essoufflé, alors qu'en miroir, même si on sort du champ de l'héritage colonial, les spoliations nazies, elles, ont repris un sens très important, sont sur le devant de la scène et, au final, ont repris la suite en mettant de côté ces questions coloniales, faisant en quelque sorte une concurrence des mémoires. C'est-à-dire que la France a été extrêmement précurseur, mais aujourd'hui, elle ne fait matériellement plus rien. Et bizarrement, c'est du côté de la Belgique où ben, l'influence de ce rapport Sarre-Savoie a été le plus accepté, puisqu'aujourd'hui, la Belgique est en train d'adopter justement une réforme de son droit, ou en tout cas de son droit muséal, pour considérer que tous les biens qui ont été emportés durant les périodes coloniales peuvent être restitués sans que le droit n'ait son mot à dire, sans que le politique n'ait son mot à dire. Alors qu'en France, ben, chaque restitution, chaque retour est soumis d'une certaine manière à l'approbation politique, notamment par un projet de loi, et on voit que ben, la France, qui a été pionnière, ben, au final, aujourd'hui, est totalement à la traîne par rapport à d'autres pays.
Je voudrais peut-être réagir à ce que vient de dire Pierre. À l'échelle nationale, et d'un point de vue juridique, on est aujourd'hui à la traîne, c'est certain. En revanche, je crois que cet électrochoc, les ondes portent très fort aujourd'hui, et notamment dans des musées comme le nôtre, ici à Bordeaux, le musée d'Aquitaine, en province. On voit émerger, et on est nous-mêmes partie prenante de projets qui redynamisent, qui remettent vraiment nos collections extra-occidentales à l'honneur. On réactive des partenariats. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sous-titre hein, aussi du rapport Sarre-Savoie vers une nouvelle éthique relationnelle. Et donc, effectivement, on se rend compte que depuis 4 ans, nous tous, on est engagés, on s'engage dans de nouvelles relations avec nos collègues des musées d'Afrique subsaharienne particulièrement. Je pense au Sénégal, j'étais encore avec 3 collègues la semaine dernière. Je pense au Burkina, avec lequel on essaie de monter un projet grâce à l'Université Bordeaux-Montaigne et à des chercheurs voilà, qui nous mettent aussi en réseau pour travailler sur des recherches de provenance, pour travailler avec des artistes. Enfin, il se passe plein de choses en réalité, et je pense vraiment que c'est cet électrochoc d'il y a 4 ans qui permet ça, qui permet aussi de trouver des financements pour tous ces projets, des financements qu'on aurait certainement beaucoup de mal à mobiliser avant le rapport Sarre-Savoie.
peut-être en fait des conséquences qui ne sont pas encore visibles dans la loi quelque part ou juridiquement, on dirait, mais qui, d'un point de vue professionnel et dans le secteur, se font ressentir encore.
Il faut que ça dure, en fait. Tu vois, c'est je pense que l'enjeu maintenant, il est que le soufflet ne retombe pas pour nous. Mais pour l'instant, moi, je vois, enfin, nous, Musée d'Aquitaine, hein, avec notre petite collection africaine, on est engagé dans 4 ou 5 projets de recherche avec l'Université du Mans, avec l'Université Bordeaux-Montaigne, avec des Allemands, voilà, il se passe plein de choses. Et c'est plutôt très, très encourageant, je trouve, et puis très enthousiasmant, surtout.
On le sait, dans les musées, le temps s'exprime sur le temps long, donc voilà, 4 ans, c'est finalement assez peu hein, à l'échelle d'une histoire de musée. Mélissa, je voulais revenir aussi toujours sur la question du rapport. Toi, dans le cadre de ton podcast, tu as eu l'occasion d'interviewer Lise Metz, qui est en charge des recherches de provenance au Musée du Quai Branly, et tu as interviewé également aussi des activistes, des commissaires d'expo, des artistes. Quel est ton sentiment sur le sujet, justement, sur ces répercussions, sur ces 4 ans?
Alors, déjà, comme tu viens de le dire, effectivement, j'ai interviewé Lise Metz qui a été nommée au Musée du Quai Branly pour les recherches de présence. Donc déjà, ça, je pense que c'est symbolique, c'est quelque chose déjà qu'il y ait une personne qui s'occupe particulièrement de cette question. Alors après, effectivement, moi, ce qui ressortirait, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre le temps des musées et le temps de la société, comme toujours. Comme j'interviewe beaucoup des personnes qui sont de l'autre côté du spectre de l'art, des artistes, mais aussi des personnes qui sont militantes, et vous qui sont issues aussi des organisations non gouvernementales, d'associations, etc., on voit que il y a, on va dire, une vraie demande de la part même du public à ce que les musées se saisissent de cette question, voire une impatience, parce que c'est des choses qui sont dans la société civile, entre guillemets, depuis un petit moment. En France, je dirais que, comme on l'a dit, il y a certaines personnes qui ont été nommées dans certains musées. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les musées, mais le fait que ce soit déjà au Quai Branly, je pense que c'est symbolique, parce que c'est un peu la représentation, le symbole, on va dire, en France, de la question des restitutions et du discours aussi. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense beaucoup de choses à voir aussi de ce qui se passe, en dehors de l'Hexagone et à l'étranger, en fait.
Alors, ce qui se passe en dehors de l'Hexagone et à l'étranger, on va y revenir. Katia, peut-être, finalement, en fait, on a commencé à parler du Musée d'Aquitaine, mais on n'a pas dit vraiment ce que vous faites et comment vous fonctionnez. En 2009, vous avez ouvert une section du parcours permanent consacré au commerce atlantique et à l'esclavage à travers l'évocation de l'histoire de Bordeaux au XVIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet accrochage, comment vous l'avez travaillé, comment vous l'avez présenté?
Oui, j'étais pas à l'époque pas au Musée d'Aquitaine à l'époque, mais c'est évidemment une section fondamentale du parcours. On est au Musée d'Aquitaine sur un parcours chronologique de la préhistoire à nos jours, chronologie dans l'histoire de la ville et l'histoire du territoire. Et c'est important aussi de resituer les choses dans les années 2000. Je sais qu'il y a eu d'ardents débats sur est-ce qu'il fallait que ce discours sur l'implication de Bordeaux dans la traite et l'esclavage aille au Musée d'Aquitaine, ou est-ce qu'il fallait créer un lieu dédié à cette histoire vraiment donc très centrée sur le 18e pour Bordeaux, hein, à l'inverse de La Rochelle, par exemple, on est plutôt, ça démarre beaucoup plus tôt. Et le choix a été fait d'inclure vraiment la traite et l'esclavage dans le parcours de visite du Musée d'Aquitaine. Je trouve que c'est tout à fait fondamental. Et donc, on a effectivement, depuis maintenant 12 ans, une section assez importante, hein, qui fait, je dirais, 800 mètres carrés, je crois, et qui explique dans un premier temps ce qu'est la ville, ce qu'est Bordeaux au XVIIIe siècle et ses grandes transformations, une prospérité, hein, la ville de pierre qui d'un coup devient très prospère. Et puis dans un second temps, on s'interroge sur les raisons de la prospérité, sur ses causes, avec une salle consacrée au commerce maritime, la droiture, donc le commerce en droiture directement du port de Bordeaux vers les colonies américaines et antillaises, et puis la traite, évidemment, la traite de captifs que des navires bordelais vont récupérer dans les différents comptoirs, vont traiter dans les différents comptoirs d'Afrique de l'Ouest et puis surtout d'Afrique orientale à la fin du 18e, avant la Révolution française. Et donc ça, ce sont les deux salles suivantes. Et puis la dernière, il est question des abolitions et puis il est question des conséquences très concrètes de l'esclavage aujourd'hui, des héritages politiques, sociaux, culturels dans la société contemporaine. Donc ça, c'est voilà, une section qui a accueilli depuis 2009 pas loin d'un million de personnes, énormément de scolaires. On a plus de, enfin, hors Covid, évidemment, on a plus de 10 000 collégiens qui viennent chaque année visiter ces salles. On a des médiateurs qui sont très formés aussi hein, à partager cette histoire, à la transmettre. Et c'est et voilà, ça fait partie de ce que je disais, quoi, une prise de conscience de la nécessité de sortir cette histoire du tapis dans les années 2000. Et puis, une évolution progressive qui fait qu'aujourd'hui, on est, je crois, dans une nouvelle phase avec une réécriture complète de tous les cartels, de tous les textes de salle. Un chantier, là aussi, assez considérable pour nous et pour le Christian Bloch qui est en charge de cette section, qu'on mène évidemment pas seul. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, hein, avec des historiens aussi bien en France que outre-Atlantique.
Donc, on revient aussi sur la question de l'évolution du discours hein, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu comment les médiateurs et les médiatrices sont préparés à ces sujets? Comment est-ce qu'ils et elles sont formés pour intervenir sur ces sujets, peut-être?
On les lance jamais tout seuls en salle, même après un travail de documentation en bibliothèque. Je crois qu'il y a vraiment d'abord à s'imprégner des discours que peuvent tenir les anciens du musée, des anciens qui eux-mêmes continuent de se former régulièrement. On a la chance, enfin, moi je suis vraiment contente de l'existence aujourd'hui de la jeune Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui fait un gros travail aussi de formation, notamment des médiateurs et qui nous accompagne aussi dans ce travail. On a la chance aussi à Bordeaux d'avoir des labos de recherche avec des chercheurs qu'on sollicite régulièrement et je pense notamment à Christine Chivallon, anthropologue, géographe qui travaille des années sur l'histoire des Antilles et sur les héritages de cette histoire aux Antilles. Donc voilà, c'est vraiment une relation très directe avec un discours de chercheur, d'universitaire et puis un accompagnement de structures comme par exemple la FME. Ce qu'on fait peut-être pas assez et qu'on devrait, c'est partager aussi nos expériences de médiation avec les autres musées de la façade atlantique qui traitent aussi de ces sujets. Ça, on se le dit régulièrement avec La Rochelle, avec Nantes et puis voilà, on ne prend pas le temps de le faire et je pense qu'il faut vraiment qu'on y travaille. Mais pardon, j'ai oublié quand même un acteur essentiel, je crois, pour travailler justement à la formation des médiateurs et à la formation permanente hein, des médiateurs, c'est l'Éducation nationale. On a la chance d'avoir deux enseignants au musée avec lesquels on travaille très étroitement, une enseignante du primaire et un enseignant du secondaire. Et tous les deux s'emparent vraiment de ce gros sujet. Enfin, ils sont en train d'ailleurs de terminer des parcours qui s'appelle Discrimination, on en parle, point d'interrogation. Et donc voilà, là je crois qu'il y a vraiment un dialogue aussi sur comment on transmet, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on sait, quel est le bagage culturel aussi des jeunes qu'on accueille au musée, comment les enseignants préparent les visites en amont, qu'est-ce qu'ils en font après. Enfin, ça me semble tout à fait essentiel parce que je pense que malgré tout, sur ce sujet, aujourd'hui, notre public cible, ce sont vraiment les jeunes, ce sont vraiment les collégiens, les lycéens. Et en fait, notre enseignante du premier degré nous dit que ce sont aussi d'ailleurs les cycles 3, donc dès le CM1, on y va, quoi.
Je voudrais qu'on parle encore une fois des musées de société plus largement et de la différence d'approche entre musées d'art et musées de société. Mais avant, il y a un élément que tu as évoqué, Katia. Tu parlais de la création d'institutions dédiées ou pas, ou de traiter ces sujets dans le musée. Peut-être, Pierre, on peut évoquer, on peut aborder aussi cette question-là. Aujourd'hui, c'est devenu aussi un enjeu, savoir s'il faut créer des lieux dédiés ou distincts pour traiter de ces sujets, ou au contraire, si on traite de l'ensemble de ces questions dans les musées existants.
C'est effectivement une grande question et Katia a effectivement très bien rappelé le fait que si on a une politique générale qui peut être un peu à la traîne, les institutions, elles, restent bien en phase avec leur époque et avec les questions qui se posent. Effectivement, il y a des initiatives à chaque fois plus ou moins individuelles, parfois concertées entre certaines institutions. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à un niveau étatique, le ministère de la Culture... C'est un peu là où bât blesse, puisqu'il n'y a pas d'institution, en tout cas de vrai centre, qui aurait pour vocation justement de fédérer et de pouvoir aussi aider encore plus qu'aujourd'hui les institutions à valoriser ces questions. On sait que En ce qui concerne les spoliations nazies, il y a eu, face aux quelques petits scandales de ces dernières années, des missions, des instituts qui ont été créés pour favoriser ces recherches, notamment de provenance et mieux comprendre ce patrimoine. Et pourtant, depuis 2017, l'idée d'un centre de recherche sur l'héritage colonial a pu parfois être évoquée. Et pourtant, aucun centre national ou en tout cas d'émanation nationale n'existe aujourd'hui. Les structures qui ont été créées, portées pour les spoliations nazies auraient pu devenir un grand centre sur l'ensemble de ces questions-là. C'est le choix qu'a notamment fait l'Allemagne il y a peu de créer un centre qui réunit à la fois les spoliations nazies et les questions d'héritage colonial. Et on voit qu'il y a un véritable rôle moteur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, les initiatives restent plus ou moins individuelles. Elles sont généralement de très bonne qualité et elles permettent de mieux comprendre les collections, mieux comprendre comment ces biens sont arrivés pour justement renouer de nouveaux partenaires hors de la France. Mais il manque une vision, on va dire, un peu plus globale au niveau étatique, à mon sens en tout cas.
Mélissa, tu voulais réagir sur...
Oui, en fait, je voulais revenir, enfin, faire un partage d'expérience, puisque avec le Musée d'Aquitaine, La Couleur de l'Art et La Clameur Podcast Social Club, on a organisé donc des écoutes collectives du podcast à la fois tout public et à la fois scolaire en mai dernier. Et c'est vrai que lors de cette expérience, j'ai trouvé que, enfin, du coup, on a accueilli des lycéens et des lycéennes, qu'ils étaient, enfin, j'ai ressenti un vrai besoin d'aborder ces sujets, où on a parlé beaucoup plus de racisme que d'art, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, donc, il y a un véritable besoin. Et la chose que je voudrais souligner aussi, c'est que c'est bien que les institutions fassent cet effort, parce que ça fait plusieurs années où on a déjà eu, par exemple, des anecdotes où on a entendu que des classes de certains quartiers, notamment ce qu'on appelle dans l'institution, les quartiers politiques de la ville, qui sont plutôt, du coup, les banlieues et les périphéries, des grandes villes, mais il y a aussi une question sur la ruralité d'ailleurs à se poser, qu'on pose très très rarement. Et donc on a eu pas mal de témoignages d'enseignants qui ont senti que leurs élèves n'étaient pas les bienvenus à l'intérieur des musées. Et pendant donc l'écoute collective qu'on a fait au Musée d'Aquitaine, il y a une des professeurs qui est venue me voir pour me dire que en fait ça faisait des années qu'elle n'avait pas posé un pied à l'intérieur du musée, parce que à chaque fois ses élèves étaient un peu considérés comme turbulents, suivis par la sécurité, repris, particulièrement surveillés, et que c'était quelque chose de compliqué. Donc je pense que on a l'impression que c'est pas lié directement à la question de la décolonisation des musées, mais en fait si, ça l'est complètement, parce que comme j'ai dit au début de l'émission, c'est aussi la question de qui est inclus et qui est exclu en tant que public à l'intérieur de ça. Et effectivement, s'il y a certaines populations qui sont exclues, en fait, on fait un dialogue entre nous-mêmes et nous-mêmes, et c'est pas vraiment intéressant. Et donc, je pense que le fait de renforcer certains liens entre les institutions, les associations, les autres acteurs et actrices de la question, c'est super important, et notamment à Bordeaux, qui est une ville, comme l'a dit plusieurs fois Katia, assez particulière sur l'héritage colonial et l'esclavage, il y a des associations qui font le travail aussi depuis des années. Il y a notamment Mémoire et Partage, l'association Mémoire et Partage qui organise des visites du Bordeaux colonial. Il y a aussi eu un guide du Bordeaux colonial qui a été écrit. J'ai oublié le collectif qui a écrit ça, je ne sais pas si Katia.
Le collectif du Bordeaux colonial. Enfin, il s'appelle vraiment maintenant comme ça, et c'est plusieurs associations réunies qu'on connaît bien et avec lesquelles on mène pas mal de choses. Et encore très récemment, on les a associés à une formation des guides conférenciers de l'Office de tourisme. Donc là aussi, c'était important que effectivement que les guides s'emparent de ce sujet, l'histoire coloniale, puissent avoir un peu d'aisance. En tout cas, c'était aussi une demande de leur part, hein, se sentir plus à l'aise à explorer nos salles, mais aussi la ville, sur de tels sujets.
Il y a à la fois un besoin finalement de formation qui est exprimé, et il y a aussi un besoin aussi de décloisonnement quelque part entre le musée et la ville, enfin en tout cas de communiquer ou de dialoguer entre les deux. Pierre, tu voulais rebondir ?
Oui, je voulais rebondir très rapidement, parce que c'est vrai que Mélissa et Katia ont soulevé deux points qui sont importants, et c'est vrai que ces EAC cette éducation artistique et culturelle, ben, aujourd'hui, elle a un rôle qui est extrêmement important, notamment pour les futures générations qui arrivent, puisqu'on se rend compte aujourd'hui. Alors, je ne pense pas que Katia partagera forcément le point de vue que je vais dire maintenant, mais lorsqu'il y a eu tous ces débats sur le rapport Sarre-Savoie, on s'est rendu compte que la délégation française de l'ICOM faisait un discours qui était un petit peu les musées parlent aux musées et excluait parfois un petit peu d'autres intervenants du musée et de la société. C'est un point de vue qui n'engage que moi, mais c'est quand même l'image que ces questions-là m'ont renvoyée. Et justement aussi, pour revenir à cette question d'exclusion-inclusion qu'évoquait Mélissa, ben justement, aujourd'hui, ces générations de demain, ce que peuvent faire les enseignants via l'EAC, mais également aussi les médiateurs qui vont justement sortir du simple champ de professionnel à professionnel, mais apporter leur bagage professionnel, culturel et sociétal vis-à-vis d'un public généralement soit encore mineur, soit en tout cas majeur, c'est aussi ce qui va former l'esprit de demain pour justement revenir abonder toutes les démarches qui sont faites aujourd'hui par ces institutions, comme on le voit au Musée d'Aquitaine et comme on le voit ailleurs. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et qu'on occulte, c'est vrai, parfois un petit peu. On y est revenu au bout de deux, trois échanges sur cette question, mais c'est extrêmement important aujourd'hui.
Oui, je suis évidemment complètement d'accord, Pierre, il n'y a pas de souci. Il y a une association, moi, que j'aime beaucoup et qui nous, voilà, qu'on rencontre assez régulièrement parce qu'elle aime bien venir chez nous. C'est l'Association parisienne alternative, dirigée par Emmanuel Cadet, donc une association d'éducation populaire et qui a fait vraiment du patrimoine l'objet de enfin, son sujet. C'est son sujet, le patrimoine. Et ces héritages coloniaux, elle accompagne des jeunes qui ont entre 14 et 22, 23 ans dans des démarches de connaissance, vraiment, d'appropriation d'une histoire que ces jeunes connaissent mal. Les premières actions qu'elle mène, c'est vraiment d'aller explorer des villes, des territoires et explorer des musées, explorer des collections en allant aussi dans les coulisses, en écoutant les discours, en décortiquant ces discours. En même temps que ces jeunes apprennent aussi à mener des recherches documentaires. Enfin, je vous invite vraiment à découvrir le site d'Alternative. Il est très riche justement de tous ces projets, mobile mémoire, objets sensibles, tous ces projets qui font que ces jeunes sont, quelques années après leur immersion dans cette association, sont vraiment armés, outillés pour tenir un discours intelligent, nuancé, de connaisseur vraiment du sujet. Et ça, je trouve que c'est, voilà, une très belle initiative.
C'est passionnant, on a plein de ressources qui viennent se compléter. Je suis très content de nos échanges. Alors, je voulais revenir sur la complémentarité ou la différence de traitement entre musée d'art et musée de société. Je sais que c'est un peu de mes marottes, un peu, mais ce qu'on constate quand même, on est sur la quatrième émission du cycle consacré au rôle social des musées qu'on a donc préparé avec Bérénice. Et finalement, cette différence de traitement, elle a quand même émergé à plusieurs reprises dans les différentes émissions sur les différents sujets qu'on a traités. On voit que les musées d'art ont parfois plus de mal du coup à aborder les questions de société, alors que de fait les musées de société, au contraire, eux, ne peuvent que s'en emparer puisque leurs collections elles-mêmes sont au cœur de la vie quotidienne, notamment. Et en même temps, en préparant cette émission et en discutant, Katia, tu me disais que tu avais l'impression que c'était un peu moins tranché que ça et qu'aujourd'hui il y avait plus de passerelles entre les deux.
Il me semble, après je ne veux pas parler au nom de mes collègues des musées d'art, mais il me semble que depuis pas mal d'années déjà, beaucoup de musées s'emparent de ces sujets. Je sais que c'est un exemple parmi d'autres, mais Françoise Vergès a mené des visites au Louvre, Marcus Rediker aussi, cet historien fabuleux, auteur d'un ouvrage qui m'a profondément marqué sur le navire négrier. Voilà, le Orsay évidemment, cette fameuse expo sur le modèle noir qui a été très critiquée aussi, hein, mais qui a malgré tout été, je pense, a eu un retentissement assez considérable aussi. Et puis, je te parlais, quand on préparait l'émission, Sébastien, du réseau Frame, le réseau des musées français et américains, principalement d'art. Il se trouve qu'on en fait partie et ça nous est... on trouve les débats toujours très intéressants. Et là aussi, depuis 2-3 ans, plusieurs rencontres ont porté sur ces questions d'inclusion, de racisme avec des regards américains, regards français, dans des contextes évidemment très différents, mais qui enrichissent aussi nos réflexions. Enfin, qui, encore une fois, plus on en parle et plus on prend conscience. Donc voilà, du côté des musées, que ce soit à Strasbourg, à Rouen qui est aussi en train de réfléchir à des parcours spécifiques sur l'implication de la ville dans la traite et l'esclavage, à partir de son musée de Beaux-Arts, je crois qu'il se passe pas mal de choses.
Justement, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur le réseau Frame, en fait, et la manière dont vous travaillez, parce que j'ai vu que on a à la fois, vous avez donc travaillé sur les questions de racisme, d'inclusion, d'accessibilité, et finalement, il en ressortait que les expositions, les acquisitions et même le recrutement au sein des musées devaient aussi refléter davantage l'histoire des minorités. C'est quelque chose que Mélissa a suggéré également aussi. Il y a un problème aussi au niveau de la représentativité, la représentation des gens à l'intérieur. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur vos actions ou vos pistes de réflexion, juste simplement.
Aujourd'hui, des pistes de réflexion. Et c'est vrai que les musées américains ont une liberté qu'on n'a pas, nous, dans le recrutement. Enfin, c'est un sujet, en tout cas, auquel on est nécessairement tous confrontés. Nous ne représentons pas la diversité de la société française. Ça, c'est une certitude, en tout cas, pas dans les échelons de direction, d'encadrement. Et bon, c'est un sujet qui a été abordé aussi avec l'Institut national du patrimoine. C'est un sujet qui a été abordé avec Pape Ndiaye quand il était encore directeur du musée de l'immigration. Il est venu peu de temps avant sa nomination, prononcer une conférence au musée, ça a aussi fait l'objet d'une discussion avec lui. Je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé les solutions encore. L'affirmative action, la discrimination positive américaine, elle est, je crois, assez compliquée à envisager en France, dans cette perspective à l'échelle globale très universaliste, l'égalité devant le concours, voilà, qui est évidemment complètement illusoire. Je crois que ce ne sont que des réflexions aujourd'hui, j'ai aucune solution, malheureusement aucune solution. En tout cas, les musées nord-américains et canadiens en ont, ça c'est certain.
Mélissa, peut-être que tu peux nous en parler également, parce que tu as interviewé deux activistes québécoises qui travaillent notamment sur ces sujets.
Alors oui, j'ai interviewé donc l'organisation non gouvernementale Migra Juventa, de deux personnes donc qui sont à la fois militantes et à la fois professionnelles de musée. Elles ont notamment organisé un cycle de conférences qui s'appelle Repenser le musée avec le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui devrait être mis sur le site à un moment donné, je crois, sur leur site, donc Migra Juventa. Donc j'ai fait du coup le troisième épisode de ma série du musée des coloniales avec ces deux personnes, Diane et Michael, Diane Gistal et Michael Sergile. Je vous encourage vraiment à l'écouter parce que c'est passionnant, en fait c'est vraiment passionnant, et ça je trouve que ça nous sort complètement de, enfin ça nous dépassionne parce que c'est quelque chose, ça dépassionne le débat parce que c'est quelque chose qui se passe ailleurs, et ça nous permet de sortir complètement de nos propres problématiques, en fait, pour essayer de penser un peu au-dessus de tout ça. Après, c'est vrai que il y a des différences fondamentales entre la France et son universalisme aveugle et le monde anglo-saxon et son multiculturalisme qui a aussi ses défauts, hein. Je n'idéalise pas, absolument pas, le monde anglo-saxon, mais par exemple une initiative qui est permise, je pense, au Canada, mais qui ne sera pas forcément permise en France, c'est qu'à la suite de Black Lives Matter, elles en parlent, mes deux invités, il y a des fonds spécifiques qui ont été alloués pour les associations noires, donc en France, on dirait peut-être afrodescendant parce qu'on a un petit peu peur du terme noir. On considère, enfin voilà, avec tous les débats qu'il y a autour du communautarisme, etc., c'est quelque chose de encore très touchy en France. Mais voilà, il y a des choses qui ont été, enfin de l'argent en fait tout simplement qui a été débloqué pour être alloué à des associations, des organisations non gouvernementales, des centres d'artistes qui travaillent sur la question des représentations des personnes noires et qui sont aussi constituées en majorité dans leur CA, dans leur conseil d'administration, etc., par des personnes noires afrodescendantes. Et ça, c'était un critère clairement dit, ce qui n'est clairement pas possible en France, je pense. Donc voilà, en fait, ça, c'est une des solutions, entre guillemets. Alors, Quelle solution on aurait en France? Je ne sais pas, puisqu'on est quand même dans une situation politique assez complexe aujourd'hui, je pense. Et puis après, si on continue du côté anglo-saxon, récemment, j'ai découvert l'initiative du musée de Glasgow, en Écosse, qui a nommé une personne, alors j'ai plus son nom actuellement, spécifiquement sur l'héritage de l'esclavage de la ville de Glasgow, qui est un peu une ville qu'on peut mettre en parallèle avec Bordeaux, puisque il y a aussi des marchands qui se sont enrichis sur le commerce esclavagiste et colonial. Et donc je pense que effectivement on a intérêt à aller voir ce qui se passe ailleurs et un petit peu bousculer des préconçus qu'on peut avoir dans les institutions aujourd'hui, qui sont très liées à des considérations politiques en fait. Beaucoup plus global.
Si on continue sur les pistes d'amélioration, ou les pistes, en tout cas, peut-être trouver des solutions, je ne sais pas si le mot est un peu important. Il y a, Pierre, en fait, on a observé le développement de la recherche de provenance, une pratique qui a commencé à s'installer à l'étranger. On voit notamment en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais ça reste encore un peu timide en France. En tout cas, il y a un enjeu là-dessus. C'est une démarche qui est à la fois éthique et qui répond aussi à une exigence de transparence de la part des publics. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Alors, ces questions de recherche de provenance, voilà, ces chercheurs de provenance, comme on les appelle depuis peu, effectivement est une profession qui vient notamment des États-Unis, qui s'est installée en France il y a quelques années. Cette notion a été popularisée dans le cadre des spoliations nazies, puisque justement aujourd'hui ces fameux chercheurs de provenance sont connus du grand public sur ces questions-là. Et en matière d'héritage colonial, ou en tout cas de décolonisation du musée, cette recherche de provenance, comme on a pu l'évoquer un petit peu tout à l'heure, est encore un petit peu invisible. Elle a vocation à devenir de plus en plus visible et c'est ce que tout le monde souhaite à tous les niveaux. Et cette recherche de provenance, elle a pour but tout simplement de réaliser une traçabilité des œuvres. Puisqu'aujourd'hui, on sait pertinemment que nos collections, qui peuvent être riches de très nombreux biens culturels, alors quand j'utilise bien culturel, c'est dans son sens le plus large et au sens de sa définition européenne, donc autant des œuvres d'art que des artefacts, que des sculptures, etc. On sait que la majorité ne sont pas forcément sourcées et on ne sait pas forcément comment elles ont pu se retrouver dans nos collections. Et aujourd'hui, ce travail-là, il est nécessaire, notamment dans notre époque où on cherche à comprendre comment tels biens ont pu provenir, par exemple, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique latine ou d'ailleurs. Et ces chercheurs de provenance ont vocation à remonter le temps et à tenter de combler les zones de vide, les lacunes historiques, pour savoir comment elles ont pu quitter un territoire, comment elles se sont retrouvées dans un musée, par des divers propriétaires, par des ventes diverses, soit sur le marché de manière visible par des ventes aux enchères, soit tenter de reconstituer, comme ils peuvent parfois, ces sources. Et ces questions de provenance, aujourd'hui, sont extrêmement importantes, puisque face à des demandes de restitution, si on ne sait pas comment ces œuvres se sont retrouvées dans nos collections, il est difficile de se prononcer. C'est pour ça que la Belgique, elle, a fait le parti de dire, au final, la traçabilité, nous, on n'a pas envie de la regarder. On estime que c'est sorti à un instant T, il y a un faisceau d'indices, on restitue s'il y a une demande. En France, la solution est totalement opposée. Si on ne sait pas d'où ça vient, déjà, on va dire non, on fait de nous recevoir direct. Mais en revanche, si effectivement, on sait effectivement qu'il y a bien des conditions, qu'elles ont été soustraites illégalement à certains pays en période de guerre ou en tout cas en période de colonisation, là, déjà, il peut y avoir un renversement qui va apparaître petit à petit en dépit du simple droit, qui est aujourd'hui, malgré tout, peu favorable à ces restitutions. Et c'est ce que sous-entendait le rapport Sars-Savoie par des modifications du Code du patrimoine, afin justement de pouvoir offrir une plus grande liberté au musée de restituer, dans une manière réellement éthique, ces œuvres qui ont été emportées à une époque parfois dramatique.
Donc il y a un enjeu en fait juridique d'évolution potentiellement de la loi. Je pense qu'il y a aussi des enjeux professionnels aussi de formation. On a vu que la création d'un diplôme universitaire à Nanterre là récemment sur ces questions-là. Mélissa, tu voulais réagir?
Oui, en fait, je trouve ça très intéressant ce que Pierre-Noël dit sur la tension qu'il y a entre la façon d'agir éthique et la façon d'agir légale, puisque quand on ne trouve pas de provenance, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est une question qui se pose. Du côté de la société civile, je pense que la question est. On y répond assez facilement, enfin les gens y répondent assez facilement. Pour eux, enfin, on l'a vu au musée d'Aquitaine, des personnes qui ont pris la parole afrodescendantes ont dit, en fait, pour moi, je ne comprends même pas où est le problème, puisque quand un voleur vole, est-ce qu'on lui demande la permission de récupérer ce qu'il a volé? Donc ça, c'est la différence déjà entre l'institution et la société civile. La chose aussi que je pourrais apporter comme éclairage critique, puisque j'ai dit que c'était quand même un pack et des personnes comme Lise Metz qui étaient nommées pour les recherches de provenance, c'est quand même aussi que, effectivement, ça restreint beaucoup, en fait, je pense, au débat juridique. Le fait que si on trouve, parfois, on sait qu'il y a des collections qui ont été léguées par des généraux. Des militaires qui ont fait des campagnes militaires, donc c'est des questions aussi de conquête politique et donc qui techniquement sont légales, mais légal est-il égal à éthique? Je pense que c'est aussi des questions qu'on doit se poser, mais que pour l'instant, en tout cas, dans les musées français, on n'a pas trop envie de se poser.
Sur cette question de recherche de provenance, c'est un travail long, fastidieux. C'est un travail qui nécessite des moyens et des moyens que bien souvent des musées comme le nôtre n'ont pas. Hein, il faut qu'on en ait conscience. Donc on peut inscrire ces chantiers à l'agenda, mais malheureusement on a toujours mille autres urgences qui viennent se greffer et prendre le pas, venir voilà, nous empêcher de faire ce travail de fond. Enfin, à mon niveau, ce qui me semble aujourd'hui urgent de notre côté, donc pour une collection hein, qui est d'à peu près 3 000 objets originaires d'Afrique subsaharienne dans les collections du musée d'Aquitaine, donc des collections qui sont issues de toute l'histoire des musées d'une ville comme Bordeaux. Hein. Et ce qui me semble urgent, c'est de les rendre visibles, c'est-à-dire de les publier, de les mettre en ligne avec toutes les informations lacunaires, tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire pour 80%, je pense, de ces collections. Bon, j'exagère peut-être un peu parce qu'il y a des ensembles qui sont arrivés finalement il n'y a pas si longtemps, mais en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, un numéro d'inventaire, une désignation qui est la nôtre hein, et une photo. Et finalement, pas grand-chose d'autre. Mais qu'au moins notre inventaire soit transparent. Je pense que c'est voilà, aujourd'hui c'est la priorité que je me donne à mon niveau pour ces collections dont je vais avoir la gestion bientôt.
Alors, si j'essaye un peu de synthétiser l'ensemble de ce qu'on s'est dit, finalement, j'ai l'impression que la question de l'héritage colonial et de la décolonisation des musées va chercher à la fois dans une exigence de transparence, une attente de transparence de la part des publics. Ça va également puiser, enfin, ça va également avoir des influences sur les pratiques professionnelles à l'interne dans les musées. On l'a vu sur la question du recrutement, sur la représentation, la représentativité des minorités, des personnes afrodescendantes notamment. Et puis, ce que je me disais aussi, c'est qu'il y a peut-être des évolutions à la fois juridiques, on l'a vu, légales, comme Pierre l'a évoqué, et puis des différences peut-être entre des attentes ou la vitesse à laquelle la société civile, entre guillemets, va, et les musées, eux, et leur temporalité, leur possibilité technique aussi. D'ailleurs, on l'a vu avec Katia qui le rappelait, il y a aussi un enjeu aussi économique hein, dans ces questions-là. Il ne faut pas oublier que les recherches de provenance, notamment, ça demande de l'argent et ça demande du temps, des moyens qui ne sont pas forcément systématiquement alloués au musée.
Moi, j'ajouterais juste, du coup, peut-être un point qui est important, parce que c'était aussi en filigrane, c'est qu'on est effectivement sur un temps long. Il ne faut pas perdre de vue que la Convention de l'UNESCO a à peine 50 ans. La formation, alors d'un point de vue juridique, de ces questions de retour de restitution, a 50 ans. Là, sur une période de 5 ans, il y a déjà eu des avancées qui ont été extrêmement importantes. Alors, il faudrait espérer qu'il ne faut pas attendre 50 ans pour que la décolonisation du musée se fasse, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on veut toujours que les choses aillent plus vite et face parfois à des machines institutionnelles. Ça demande parfois un peu de temps, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que derrière tout cela, c'est ce que rappelait justement Mélissa, il y a une question qui est politique. Il y a une question qui est politique et cette question politique, ben, peut aussi jouer un rôle important. Et malgré tout, dans une période où ben, aussi l'Afrique, peut apparaître comme un terrain de reconquête pour l'Europe ou la France, ben, ça peut aussi être un des facteurs qui peut déclencher justement aussi une reprise de conscience de ce patrimoine africain qui justement cherche aussi à se construire et à se reconstruire les pays africains. Et ben, le premier pas, c'est de demander aussi un retour de leur patrimoine. Donc, cette décolonisation des musées, elle joue dans un double sens. Et ça, c'est le temps qui va nous dire quel sens il va prendre.
Merci, merci à vous trois. C'est la fin de cette émission consacrée à l'héritage colonial et à la décolonisation des musées. Merci donc à nos trois invités pour ces échanges. Je rappelle donc Mélissa Andriana Solo, je rappelle que tu es podcasteuse, productrice du podcast La Couleur de l'Art. Katia Koukoka, tu es directrice adjointe du Musée d'Aquitaine à Bordeaux. Et enfin Pierre Noal, juriste et historien de l'art. Vous trouverez les ressources, les nombreuses ressources que nous avons mentionnées dans la description et le compte Instagram de Culture & Com. Je pense qu'on va avoir un petit travail avec Bérénice pour rassembler tout ça, parce que vous avez cité énormément de choses et c'est tant mieux. Cette émission a été produite par Bérénice Billiès, qui la réalise également, et par moi-même, Sébastien Magro. C'est la dernière émission du cycle que nous avons proposée autour du rôle social du musée. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement Bérénice pour sa patience, son écoute et sa rigueur dans notre collaboration. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ces quatre émissions qui font écho à mon travail de veille et à mes interventions dans l'enseignement supérieur. C'est également la dernière émission de la saison avant la pause estivale. Vous retrouverez Bérénice à la rentrée. D'ici là, bon été à tous et à toutes.